génération. Restart.
Try again.
Try again.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous nos petits geeks, à toutes nos petites geekettes qui nous suivent dans Try Again, l'émission des jeux vidéo rétro. J'espère que vous avez passé une bonne première partie avec des jeux beaucoup plus récents. Nous, aujourd'hui, on va prendre un grand plaisir. J'espère que vous avez sorti vos lassos, que vous avez sorti vos chapeaux d'aventurier, parce qu'aujourd'hui, c'est Indiana Jones, le point and click, The Fate of Atlantis.
Je m'offusque, c'est pas un lasso, c'est un fouet.
Un fouet, un fouet.
Fouet,
votre chapeau d'explorateur, etc. Alors, c'est Lionel qui a choisi aujourd'hui de vous parler de ce jeu. Ellie nous parlera tout à l'heure des point and click LucasArts.
Salut les loulous, effectivement, je vous en parlerai.
Et puis Martin, qu'est-ce que tu nous as préparé?
Eh ben, vous verrez pour la fin, c'est une petite surprise.
La petite surprise.
La petite surprise du jour. Voilà. Voilà, c'est du chef.
Et puis Lionel, il a travaillé un petit peu plus que d'habitude, il a fait des bêtes de très longs sur les musiques, donc j'espère que vous allez savourer les musiques. Et on en écoute justement une tout de suite, c'est Sophia Atlantis Presentation.
Génération Restart.
Génération Restart.
M57 Radio. M57 Radio. Try again.
Try again.
Nous revoilà déjà après une belle musique digne de musique du film. Hein. Et c'est Ellie aujourd'hui qui commence avec l'Insert Coins concernant les point and click. Alors on avait déjà un peu parlé du style, mais aujourd'hui c'est particulièrement les LucasArts.
Voilà, LucasArts ou LucasFilm. Donc je vais vous parler dans cette partie Insert Coins de tous ceux qui ont été faits par eux. Alors à la base, ils voulaient pas trop sortir de point and click sur Star Wars parce que c'est une grosse licence au niveau des films. Ils voulaient pas faire de jeux vidéo dessus au début, donc ça a bien changé depuis. Donc ils ont sorti pas mal de perles et je vais vous les lister. En commençant par Maniac Mansion, qui est sorti en 1987, notamment sur NES, et qui était vraiment assez précurseur en la matière, et qui était la préquelle de Day of the Tentacle en 93. Les jeux de Tentacle, je pense qu'il y en a qui ont fait autour de la table, qui connaissent.
Ouais.
Moi, je l'ai pas terminé. C'est un des très bons, il est vraiment très délire. Ça part dans tous les sens. C'est l'histoire de trois aventuriers. Finalement, il y en a un qui va dans le temps, dans le futur, un dans le passé et un qui reste dans le présent, c'est ça?
Un petit peu
ouais,
ça,
ouais. Ça,
ouais. Et il y a des tentacules qui veulent envahir le monde. Et alors, en fait, moi, j'ai une... Allez, anecdote perso direct, comme ça.
Ouais.
Anecdote Tentacle, à l'époque où j'y avais joué sur PC, la première fois que je l'ai essayé, c'était chez un copain, moi, un ami d'enfance que je n'avais jamais rencontré, pas grave. Et ce monsieur-là, quand il a lancé le jeu, au bout d'un quart d'heure, il fait « Mais je savais pas que j'avais un dessin animé sur le PC, quoi. » En fait, l'introduction est super longue et t'as une vraie scène de dessin animé que tu peux shorter si tu veux, hein. Mais il était vraiment surpris d'avoir une telle phase aussi bien travaillée au départ du jeu.
Avec de grosses qualités, donc. Pour combattre les tentacules, c'est un petit peu comme dans Rutsuki Doji.
Oula, pas du tout la même référence.
Les fans de hentai se reconnaîtront.
Et encore, c'est pas forcément que du hentai, hein. C'est assez particulier comme genre.
Le genre n'a rien à voir, effectivement.
Non, vraiment rien, hein. À part les tentacules.
Alors, Lucas, ils ont aussi sorti Zack McCracken and the Alien Minbenders en 88. Oh, difficile à dire, hein. Indiana Jones, la dernière croisade en 89. Celui-là, je l'ai fait. Il était très sympathique. Donc, il ressemble beaucoup à celui qu'on va détailler ce soir.
Il était fidèle au film.
Écoute, ouais, il était assez fidèle.
Ouais, ouais, il retraçait vraiment le cheminement du film et il était assez bien, franchement très bien réalisé déjà. Et, c'était déjà un très bon jeu, quoi.
Ouais. Ok. On en reparlera après, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises, notamment les combats, tout ça.
Oui, bon, on en reparlera un petit peu, oui.
Ouais. Rapidement. Il y a Loom qui est sorti en 90. Donc, il est très vieillot quand on regarde. Il y a pas de voix synthétique. C'était avec beaucoup de notes de musique, de la magie, pas beaucoup d'action. Donc j'ai pas mal regardé de vidéos sur YouTube. C'est peut-être pas un des plus grands succès, pas un des plus connus en tout cas.
Je connaissais pas avant que t'en parles ce soir.
Ouais. The Secret of Monkey Island en 90 aussi. Celui-là par contre, on en a beaucoup parlé.
Il a fait du bruit. Hein.
Ouais. Alors, vraiment un des tout grands, avec des pirates. Beaucoup d'intrigues, un peu tirées par les cheveux.
Ouais, bon, souvent.
Ouais, c'est ce que j'ai dit. Souvent, les points
d'intrigue sont après, un peu tirés par les cheveux.
C'est un peu inhérent au genre.
Avec des batailles d'insultes aussi, il me semble.
Ouais. Et dans Monkey Island 2, le Chucker's Revenge en 91. Un petit peu pareil, hein, pour les pirates. Ensuite, en 92, il y a donc Indiana Jones and the Fate of Atlantis, dont on va parler en long, en large et en travers tout à l'heure. Donc, c'est un jeu pour lequel on a eu un gros coup de cœur, n'est-ce pas, Lionel?
Mm-hmm.
C'est pour ça qu'on va en parler.
Tout à fait.
Sam & Max, Hit the Road, en 93, c'était aussi un jeu super barré avec un chien lapin. Donc, on dirige un chien détective. Et le lapin, il peut nous aider par moment. Il est totalement déjanté.
C'est sur la légende du Bigfoot. C'est un grand n'importe quoi, ce jeu. C'est juste excellent.
Et ils ont sorti récemment des épisodes de Sam & Max.
Téléchargeables avec
par partie.
Ensuite, il y a eu Full Throttle en 95, donc ça c'est avec des motards. Celui-là, je l'ai fait en long, large et travers, c'est un de mes jeux cultes, un de mes jeux références. Bon, toutes les voix sont digitalisées, ça passe bien. Il y a des petits combats à moto qui sont bien sympathiques. Alors les détracteurs de ce jeu diront que la durée de vie est pas si longue que ça, mais ça, si on connaît bien le jeu, on peut le tracer. Sinon, on reste quand même par moments coincé. Moi, je l'ai trouvé très cartoon, très, très sympathique à jouer, très zen. On conduit la moto, on doit faire demi-tour, on doit sauter parce que le pont a été détruit entre deux falaises pour passer, donc il faut trouver tout l'équipement pour faire accélérer la bécane suffisamment, prendre de l'élan, etc. Je vous le conseille fortement. Ensuite, en 95, il y a aussi The Dig qui est sorti. Alors, ça se passe dans l'espace et c'est fait par Steven Spielberg.
J'avais un peu essayé, celui-là, je l'avais pas trop accroché. Moi.
Ouais, il s'est intéressé aux jeux vidéo avec ce jeu. Je trouve ça une chose quand l'univers du cinéma et du jeu vidéo ne font plus qu'un, quasiment. Ensuite, en 97, on a eu The Cruise of Monkey Island, donc la malédiction de l'île singe, au signe.
The Curse.
Et, ouais.
Monkey Island, connu, hein.
Il continue la série, quoi.
Ouais. Il y en a un que j'ai, par contre, c'est Grim Fandango, en 98. Il est vraiment réputé, cette fois, qui change le moteur graphique. Jusque-là, on avait le moteur graphique, le Scum, de 87 à 97. Et là, c'est de la vraie 3D.
Scum, c'est quoi nouveau exactement? Je sais qu'à la fin, c'est Fort Monkey Island.
Moi, je vais en parler, l'histoire du Scum System, je vais vous expliquer ce que ça
fait. Alors, je ne veux pas te spoiler, j'attendrai, j'en partirai.
On va en parler tout de suite au début de ma chronique, je vous expliquerai après.
Voilà.
Un petit peu ce que c'est.
Donc, pour parler un petit peu de Grim Fandango, on est une personne qui, après la mort, il y a tout un monde. Après la mort, il y a une vie. Mais attention, dans cette vie-là, si on meurt, cette fois-ci, c'est définitif.
En gros, on meurt, quoi.
Ouais, il faut pas mourir une deuxième fois, quoi.
Mais en gros, d'après
ce que deux fois, mais c'est bon.
Si je suis bien ta liste, en fait, ça sous-entend qu'à chaque fois, le point commun de tout ce jeu-là, c'est un univers vraiment un peu décalé et foufou quoi. Enfin...
Ouais, dans les point and click, c'est vraiment souvent le cas. Le réalisme est un petit peu mis de côté pour être un petit peu plus derrière. Je voulais encore dire qu'il y avait des concurrents de l'époque, c'était Westwood Studio, avec notamment la série des légendes de The Kirandia. Et aussi Sierra qui avait sorti pas mal de points.
Ouais, Sierra c'était les gros concurrents, ouais. Je me souviens. Dans le, l'esprit un peu.
Fantasmagoria que tu connais, Nelly, je crois, était pas fait par
je
Sierra.
Je ne sais plus par qui c'était. Mais qui est mes jeux extraordinaires.
Si j'ai le temps de dire encore un exemple des trucs vraiment de délire dans Days of Tentacle, il y avait des toilettes téléporteurs temporels.
Mais tout à fait.
Ça va bien maîtriser en fait de faire passer les objets à travers les époques, c'est génial.
Ça faisait un peu penser à la cabine téléphonique du Docteur Who, comme
Astrid. C'est un peu ça, ouais.
Donc ouais, voilà, parmi les trucs un peu plus cultes qui m'ont marqué dans les Lucas.
Les mecs.
Magique, hein, parti. Hein.
Fighting Theme, donc toujours choisi par Lionel, puisque c'est lui le chef aujourd'hui de cette émission. Indiana Jones, on écoute.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Génération Restart. Génération Restart.
Nous revoilà déjà dans notre versus mode sur Indiana Jones and the Face of Atlantis. Soyez prêts à pointer et à cliquer, mais soyez aussi prêts pour le Stunfest. Si vous êtes intéressés, c'est long, vous en avez déjà un petit peu parlé. Festival Underground Geeko Indie Retro Arcade Gaming, je trouve que ça résume bien. Donc voilà. Il y en a pour tous les goûts. Ça se passera du 29 avril au 1er mai 2011 et ce sera à Rennes, c'est ça Martin ?
Près de Rennes.
Près de Rennes. Donc Martin y sera, donc n'hésitez pas si vous êtes fan de jeux vidéo à vous y rendre. Et maintenant, Indiana Jones.
Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ou donc et le destin de l'Atlantide en français dans le texte. Donc c'est un jeu développé sur PC, Mac et Amiga entre autres par LucasArts, sorti en juin 1992 dans sa première version. Le jeu a été réédité en 93 dans une version CD améliorée en fait, proposant des voix digitalisées. Donc en fait, c'est à partir de la version de 93, oui, tous les dialogues ont été parlés, donc enregistrés par des acteurs, des vrais acteurs, et incorporés dans le jeu. Donc c'est la version à laquelle moi j'ai rejoué récemment, que j'ai retrouvé, qui fonctionne même sous Windows 7. Ouais,
cool.
Donc je pourrais éventuellement indiquer aux joueurs qui seraient intéressés par MP l'endroit où trouver ce genre de petites choses s'ils veulent s'adonner au plaisir du jeu.
MP égale message privé sur notre magnifique forum.
Voilà.
forum.com.
Tout à fait, puisque vous pouvez nous joindre dessus en général. On est là, donc inscrivez-vous et venez nous demander des petites infos ou des petites choses. Quoi.
À propos des jeux de l'époque, c'est vrai que les PC avaient souvent un temps d'avance sur les consoles, notamment pour les voix digitalisées.
Bah, c'est-à-dire qu'après, c'est aussi une capacité de stockage. À l'époque du jeu, quand il est sorti une première fois, ça aurait jamais pu être fait parce que le jeu déjà, je faisais un truc.
Disquette, non ?
Il était sur disquette. Alors si j'ai
disquette de mémoire, je crois.
Tu rigoles. Non. C'était 12 ou 14, un truc comme ça. Mais c'était un nombre de disquettes un peu de ce style-là. Alors après, ça dépendait des versions du jeu et du support du jeu. Mais c'était un truc comme ça, quoi. Il y avait, je crois, 11 disquettes sur Amiga. 5 disquettes sur PC, donc autant pour moi, et 5 pouces 25, quoi.
Sachant qu'en plus à l'époque les fichiers sonores, ils n'avaient pas la compression qu'ils ont aujourd'hui, du coup ça pesait vachement lourd, quoi.
Voilà, non mais c'est ça, ça aurait été quasiment, enfin c'était impossible à faire une version avec voix digitalisée, enfin même pas voix digitalisée, parce que voix digitalisée c'est l'ordinateur qui interprète la voix, là c'est carrément une voix enregistrée, quoi.
Ce serait pas impossible, c'est juste que ça aurait été trop lourd, parce que ça aurait demandé une quantité de disquettes astronomiques.
Oui, c'est ça, quoi. Donc un CD étant l'équivalent de environ 600 disquettes, on fait vite les calculs. Ça aurait revenu cher les boîtes. Il aurait fallu ramener le Fenwick pour venir chercher la boîte d'Indiana Jones au magasin, quoi. Ça aurait été non.
Ça aurait été beau, ça.
Des brouettes entières. Allez, vas-y, c'est mon jeu.
Le plus gros jeu.
Le plus gros jeu.
Tu passes un dialogue, change la disquette.
C'est ça. Fat Atlantis. Ouais. Bien vu. Donc le jeu a été développé à l'aide du fameux Scum System dont on a parlé tout à l'heure. Le Scum System, alors c'est un acronyme, c'est script, je sais plus quoi, pour Maniac Mansion. En gros, c'est un script.
C'est pas Monkey Island.
Non, Maniac Mansion.
Non, Maniac Mansion. Autant pour moi, désolé.
Ouais.
Désolé.
Et en gros, c'est un système de développement qui permettait aux développeurs de créer les environnements de jeu et les décors et tous les éléments du jeu dans un environnement particulier, et qui les codait en gros, qui les convertissait directement en fait dans les différents langages machines sur lesquels ils allaient porter le truc. En gros, c'était un truc qui facilitait le portage au possible. Parce que bon, il faut dire qu'un point and click dans l'absolu, c'est un fond d'écran, des éléments interactifs, et l'esprit des personnages jouables et non jouables, quoi. Donc concrètement, il est assez vite fait de dire d'expliquer, de mettre les éléments ensemble et avec les interactions qui sont possibles, le jeu va réagir différemment. Donc ça permettait en fait directement de faire des portages assez rapidement, sans que qu'il y en ait besoin d'un développeur spécialisé dans le langage machine.
C'est pour ça qu'en fait, il y a eu plein d'éléments de jeux qu'il y a donné avant, qui ont été facilement programmables pour eux dans un laps de temps aussi court.
C'est ça, et en même temps, qui étaient portables sur tous les supports aussi variés qu'on avait à l'époque, quoi.
C'est bien.
N'est-ce pas?
C'est bien, mais oui, pas tous les supports PC, quoi.
Ouais.
C'est ce qu'on a déjà dit, voilà. C'est
pas les supports consoles, mais les supports Mac, PC et autres, effectivement, c'est bien. C'est pas une bonne conversion.
C'est sympa, quoi. Bon, ça permettait au maximum de joueurs d'y avoir accès, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc, comme son nom l'indique, le jeu repose sur le personnage d'Indiana Jones et se trouve en fait, comme étant plus ou moins une suite de Last Crusade. Donc, ça passe après dans l'histoire de Last Crusade, donc la dernière croisade. Contrairement à ce dernier jeu, le jeu nous propose un scénario complètement original qui n'est pas tiré des films. Puisque The Last Crusade était la dernière croisade qu'on avait au cinéma, avec, comme on disait tout à l'heure, une certaine fidélité quand même par rapport au jeu, enfin par rapport au film. D'ailleurs, ça aide de voir le film pour faire le jeu. Ouais, pour certaines énigmes, ça peut aider. Ouais, il y a des choses qui sont plus faciles. Après d'autres qui sont propres au point and click.
Moi, je me souviens. Ouais, au début du jeu, il fallait par exemple dans la bibliothèque s'attaquer au sol, casser le sol, faire un trou
pour trouver l'âge. Dans l'église qui était convertie en bibliothèque.
Ouais, il y avait des copains, ils avaient pas trouvé ça pendant longtemps. Une fois qu'ils ont vu le film, ils se sont dit, ah tiens, ouais, c'est comme dans le film. Oh, ça marche.
Ouais, fallait récupérer comme dans le film un poteau et casser le sol avec le poteau qu'on a récupéré. Ouais. Ah bon, voilà. Donc au départ, LucasArts souhaitait en fait développer un jeu à partir d'un scénario qui avait été refusé au troisième film. Et Al Barwood, qui avait été nommé en charge du projet, donc en chef de projet, trouvait que si le scénario avait été refusé, c'était bien pour une raison, et que du coup il voulait pas d'un rejet du cinéma pour faire un jeu. Et donc il a décidé de créer un scénario complètement inédit. Après avoir cherché l'inspiration pendant quelques temps dans la bibliothèque du Ranch Skywalker de George Lucas,
En fait, c'est une espèce de grande résidence, enfin, même pas une résidence, mais un espèce de retraite pour les pour tout ce qui est créateur, scénariste et développeur. Voilà, c'est un truc de genre une grande maison George Lucas où en gros il y a plein de pièces,
des grandes bibliothèques
d'informations. C'est un truc apparemment assez
qui se croise là-bas.
C'est un truc assez énorme avec un terrain autour, avec des trucs énormes autour. Si vous voulez regarder un peu sur le net ce que c'est un peu le Neverland de George Lucas en fait.
Ouais, très intéressant. Hein.
Ouais, voilà.
Passer des vacances là-bas.
Après avoir passé quelques temps donc à chercher dans la bibliothèque de George Lucas, ils se sont arrêtés. Sur le sujet de l'Atlantide, après avoir trouvé ça dans différentes références, dans différents bouquins et autres, toute une mythologie fut donc créée pour le jeu, à partir entre autres des dialogues de Platon qui mentionnent justement cette Lacitlée Atlante. Ça c'est une réalité dans les textes. Après ils mentionnent ça comme un mythe, mais du coup ils sont servis de ça pour créer tout le mythe, étoffer le mythe et puis s'en servir des différents éléments pour l'histoire du jeu, quoi. Donc l'histoire elle commence dans le jeu en 1939 au collège Barnett où en fait Indy recherche une statuette à la demande d'un mystérieux monsieur Smith et qui en fait s'avérera être un méchant nazi comme c'est le cas dans les Indiana Jones. À la recherche d'une les nazis qui sont à la recherche d'une source d'énergie incroyable dont l'origine viendrait de la mythique cité Atlante et des pierres d'Oricalque. Donc qui seront implémentés dans le... enfin c'est des objets qu'on trouve dans le jeu, des espèces de perles qui vont pouvoir avoir des effets avec la technologie Atlante en fait qu'on va retrouver au fur et à mesure.
L'Oricalque c'est dans les mondes engloutis, vieux dessin animé.
Écoute, étant donné que c'est un matériau,
ça doit t'inspirer. La sortie, c'est englouti, c'est un monde englouti, soi-disant. Donc, tout ça doit être la même chose. Oui, ça doit être inspiré des mêmes textes, hein, je suppose.
Donc, Indy sera alors ramené à retrouver une de ses vieilles connaissances, Sophia Hapgood, autrefois archéologue à ses côtés et aujourd'hui devenue médium. Et donc, ils vont explorer les différents endroits du monde, à la Indiana Jones, pour mettre en fait la main sur les secrets de l'Atlantide avant le Troisième Reich. Ils seront toujours en compétition avec les Allemands pour essayer de retrouver la cité Atlante. Donc, voilà un peu le topic du jeu. Après, ça reste... C'est donc... on va dire un bon point and click à mon goût, mais bon, je vous expliquerai peut-être ça un peu plus tard.
Après la musique.
Après notre petite pause musicale.
Tu nous emmènes à Monte Carlo, c'est ça, Lionel?
C'est ça.
On va faire une poursuite de voiture.
Ouais.
Donc on écoute Monte Carlo Car Chase et on se retrouve après pour parler plus amplement de ce jeu, du système de jeu et tout ce qui s'ensuit.
We'll be right back.
Try again.
Try again.
Nous revoilà dans la deuxième partie de notre versus mode. Je propose qu'on reprenne avec une petite devinette sur une grenade. Martin, tu la poses?
Ah ouais, alors en fait, c'est une bombe qui va dans son embouche, et puis, comme toute
mais
blonde.
Mais c'est pas celle-là?
Non,
vas-y, vas-y.
Ouais, moi, je aussi, hein. Donc, comme toute blonde, elle est un défaut un peu limité, donc le mec qui fait l'entretien, il comprend ça, puis il pose la question à la subsidiaire à la fin. Mademoiselle, combien est-ce qu'il y a de thé de Indiana Jones? Et puis elle commence à écrire un peu sur une feuille, à gribouiller, et elle demande au gars une autre feuille, et elle commence à gribouiller des grands calculs. Le mec un peu étonné, il comprend pas. Puis elle arrive à la fin, il fait, monsieur, 42. Vérifique. Comment vous êtes arrivé à ce résultat? Ben, c'est simple.
Voilà,
donc je reprends sur mon petit Indiana Jones après cette magnifique blague de Martin. Le jeu qui se déroule donc comme tout bon point and click qui se respecte. Hein, on a déjà abordé le sujet des point and click. Vous retrouvez en fait à l'écran une barre en bas de l'écran qui vous propose en fait 9 verbes représentant les différentes actions disponibles qu'il est possible d'appliquer aux objets en notre possession ainsi qu'aux éléments du décor dans le but de les combiner ensemble et de réaliser les actions nécessaires pour progresser dans le jeu.
Enfin, en gros, résoudre des énigmes.
Résoudre des énigmes, qu'on peut appeler ça des énigmes, mais je veux dire, des fois, c'est des trucs aussi bêtes que dévisser une vis, faut trouver comment dévisser une vis. Il y a différentes solutions. Donc,
parce que le verbe dévisser n'est pas dans la liste.
Dévisser n'est pas dans la liste, donc voilà. Donc les verbes en question qu'on a sont donner, prendre, utiliser, ouvrir, parler à, pousser, fermer, regarder et tirer. Classique. En sachant que utiliser peut être va être contextuel en fonction de ce qu'on utilise sur quoi, le résultat va être différent forcément, quoi.
Et Ellie, on ne peut pas utiliser tirer sur la dame qui nous accompagne, on peut pas sur Sophia, c'est possible.
Je sais que c'est ça, je pense aussi de l'avoir fait.
Non, mais prendre, ça marche. Donc par exemple au début du jeu, j'essaie d'aller trouver les objets adéquats, parce qu'évidemment c'est comme dans tout point and click qui se respecte, faut ouvrir un placard, regarder un peu ce qu'il y a sur l'écran, passer sa souris partout, voir si vous avez le curseur qui change ou tout simplement utiliser l'action regarder à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas un élément que Indy n'aurait pas vu.
Non. En gros, balayer l'écran, cliquer un peu partout, voir ce qu'on peut faire aussi des fois, voir ce qu'il y a.
Voilà, quand on est bloqué, en général, c'est à ça que ça se résume. Souvent, quand on est bloqué dans un point and click, c'est qu'il nous manque un objet, qu'on n'a pas fait une action particulière, qui se résume à 9 mots, quoi. C'est ça qui est dingue dans le système de point and click de ce style. C'est que ces 9 mots, avec ces 9 mots, on fait tout le jeu, quoi, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un jeu vidéo, on a ce qu'on appelle, souvent des bouts contextuels. C'est généralement appelé bouton action, dont l'action va changer en fonction de l'endroit où on se trouve, de ce qu'on fait. Par exemple, vous êtes face à un interrupteur, vous appuyez sur le bouton action, il va ouvrir l'interrupteur. Face à une porte, il va ouvrir la porte. Face à un objet, il va prendre l'objet. Et ainsi de suite. Là, vous choisissez les actions, vous n'avez pas de bouton contexte, quoi.
C'est fortement intellectuel.
Ouais, voilà. Ça fait beaucoup plus réfléchir qu'avec le moderne, en fait.
Ouais. Tout à fait. Et donc par exemple, si vous avez trouvé l'objet adéquat, vous serez en possession d'une pointe de flèche et d'un chiffon. Donc confronté à une vis récalcitrante dont je parlais tout à l'heure, vous pourrez tenter d'utiliser la pointe de flèche pour la dévisser. Donc logique, quand il y a un truc pointu, on va pouvoir s'en servir de tournevis. Ce que font Tom, quand on prend notre petit tournevis, notre pointe de couteau pour la péter sur une vis ou autre. Voilà quoi, c'est ça. Donc là, on va utiliser la pointe de flèche. Mais la pointe de flèche étant pointue et tranchante, Indy vous explique alors que non, il se fait mal à ses pauvres petits doigts, le pauvre petit.
Oh, il refuse.
Ses pauvres petits doigts délicats ne supportent pas le tranchant de la pointe. Alors on se dit on va utiliser le chiffon avec la flèche pour l'enrubaner, tu vois. Donc on clique sur utiliser, on clique sur chiffon et on clique sur la flèche et donc il va utiliser le chiffon sur la flèche.
C'est incroyable avec tout ce qu'il va subir, le pauvre Indy, que la pauvre petite flèche lui passe mal le doigt quand même. Hein.
Voilà. Ça pour dévisser la vis.
Voilà, et donc une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec un objet qui va s'appeler
pointe de flèche enrubannée ou je ne sais quoi, ou pointe de flèche un truc du style, et avec ça vous pouvez utiliser la pointe de flèche enrubannée sur la vis, et là donc là le Indiana Jones aura ses belles petites mains protégées et pourra dévisser la vis. Donc voilà, c'est vraiment tout le fonctionnement du point and click de manière générale, et de ce point and click en particulier. Ce système de jeu qui va vous suivre pendant toute l'aventure. Vous pourrez utiliser vos objets, les objets que vous aurez en votre possession, que vous garderez jusqu'à la fin, puisque voilà, vous allez les avoir dans votre inventaire jusqu'à ce que vous les utilisiez. Des fois certains se cassent ou ne sont plus utilisables par la suite, mais grosso modo c'est ça quoi. Donc en général après on conserve les objets et
est-ce que vous savez si ça existe un point and click où on va récolter des objets et qu'on va pas tous les utiliser, parce que c'est un peu la faiblesse du point and click, c'est que ce qu'on utilise, on l'utilise.
Alors moi, par exemple, dans le Indiana Jones, je l'ai refait que dans un certain mode. Alors peut-être qu'il y a une autre utilité dans un autre des modes de jeu, je vous en parlerai après. Mais j'ai trouvé par exemple, il y a un moment, il y a du pain et du saucisson quand on est dans un sous-marin. Si on fait utiliser le pain avec le saucisson, Indiana Jones se fait un sandwich. Et quand on fait utiliser sandwich, il mange son sandwich.
Ouais.
Mais ça sert à rien.
Si tu joues pendant longtemps, l'ordinateur se rend compte qu'il meurt de faim et il se laisse pas.
Parce que souvent c'est la faiblesse. Hein. C'est que les objets qu'on trouve, on sait qu'on va les utiliser, donc on essaie de tout manipuler comme on peut pour l'utiliser, quoi.
Moi, pour avoir beaucoup fait des tentacles plusieurs fois, c'est qu'il y avait des objets qu'on fera comme le boule de bowling, quelque chose comme ça. Tu peux les utiliser pour faire une animation qui sert strictement à rien. Ça peut être une animation un peu comme là, une dit qu'il m'en sous son but.
Ouais, ouais.
Mais il n'y a pas d'autre utilité que ça. Je veux dire, ils ont prévu que si tu le ramasses et que tu vas t'en servir quelque part, ça fait quelque chose, mais c'est quelque chose d'est inutile.
Ouais.
Donc les objets peuvent comme ça être faire une action, mais l'action se révèle être inutile.
Un objet un peu piège, voilà, une action un peu marrante.
Mais dans End of Fate, c'est pareil. On a la sorcière, il y a des ingrédients qu'on mettra pas dans la marmite pour faire la potion magique. Il y a d'autres objets qui sont forcément utiles, qui sont des leurres.
En fait. Mais en fait, je pense qu'ils ont dû faire un peu ça pour tous leurs jeux. Tu récupères des objets, mais tous ne seront pas nécessaires pour compléter toutes les énigmes.
Oui, voilà, c'est ça. Après, je vais vous expliquer aussi certaines autres choses, mais bon, effectivement, quoi. Donc, les interactions avec les personnages sont également une des parties primordiales du jeu, puisqu'il faudra constamment rechercher, en fait, des informations ou différents objets qui vous permettront de résoudre les énigmes à venir et donc accéder aux autres zones du jeu, pour peut-être finalement accéder à la cité légendaire de l'Atlantis.
Ah, elle existe alors?
Il faut finir le jeu pour savoir.
Voilà.
Donc, pour ce faire, vous aurez généralement des lignes de dialogue à choix multiples qui influeront sur les réponses données par le personnage non jouable et qui influeront surtout sur la façon dont il va vous aider ou non à résoudre à obtenir un objet ou
à savoir l'utiliser
savoir une chose en particulier.
Souvent, on peut se foutre un petit peu de la gueule de l'interlocuteur. Il y a toujours une petite phrase un peu décalée comme ça.
Et moi, quand j'ai réessayé le jeu, je me suis retrouvé coincé comme ça, en fait, en ayant répondu au mauvais dialogue. Mon personnage était devant l'hôtel de Monte Carlo et j'avais donné la mauvaise réponse au personnage qui passait de temps en temps devant le truc. Et quand je lui reparlais, il voulait rien me dire, il partait directement et du coup, je pouvais plus rien faire. J'étais coincé devant mon hôtel, quoi.
Donc, ça fait une espèce de game over.
Sans
avoir un écran
après,
game over.
Après, pourtant, je suis resté un bon petit moment à essayer de trouver, mais peut-être que j'ai pas fait la bonne action, que j'ai pas trouvé la bonne action à faire pour me débloquer de ce truc-là, mais grosso modo, je me suis retrouvé coincé, quoi.
Alors, quelque chose d'inhérent au genre, c'est la difficulté des softs. Quand on n'a pas une solution, quand on connaît pas le jeu, généralement, on reste bloqué très rapidement, et au bout de moult efforts où on demande à des copains, on se débloque, et très rapidement, on est de nouveau bloqué. Faut aimer chercher, c'est dur.
C'est ça, quoi. Moi, il faut savoir que le jeu, en plus, à un moment donné, va proposer trois choix aux joueurs. Alors, qui vont complètement changer la façon d'appréhender le jeu. Enfin, en tout cas, une grande partie changer la façon d'appréhender le jeu. C'est d'ailleurs au co-designer Noah Falstein, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui est aussi partiellement responsable du scénario. Que l'on doit cette idée. Donc c'est grâce à Noah Feldstein que que la troisième voix a été rajoutée, d'après ce que j'ai compris. Les trois voix sont donc la voix de la réflexion, dans laquelle vous vous retrouvez seul dans l'aventure pour résoudre les énigmes, et voilà, ça vous donne une première façon d'aborder le jeu.
Vous aurez la voix et la fameuse la troisième voix que j'évoque en deuxième, mais c'est pas grave. La voix de la coopération où en fait vous vous embarquez alors avec vous une coéquipière de charme en la personne que j'ai présentée, Sophia Abgood,
la folleuse.
Voilà, qui vous, si tu veux, qui il vous faudra donc alors utiliser les talents et parfois même les charmes de la douce Sophia pour venir à bout des énigmes.
Et la troisième voix.
Et la troisième voix. Qui était déjà présente normalement dans la qui était déjà présente aussi dans The Last Crusade, c'est la voix action.
D'accord. Taper
donc,
les gens quoi.
Alors ouais. La voix action, donc il faut savoir que donc dans les deux autres modes précités, Indiana Jones évite généralement les conflits avec les autres protagonistes, cherchant généralement une astuce pour éviter toute confrontation directe, préférant donc la ruse. Si je meurs après avoir fait la ruse, alors Chrome rira de moi et jettera hors du Valhalla.
Bravo pour cette référence à Naël Buck. Elle est magnifique, bravo, voilà. j'admire. Les connaisseurs comprendront.
Voilà, à l'aston donc.
Baston. Chaussette.
Dans cette troisième voie, donc le joueur peut alors s'adonner à ses bas instincts et taper sur certains PNJ pour avancer. Donc, ce qui n'est pas forcément évident en soi, étant donné que les adversaires sont quand même parfois coriaces, et le maniement du personnage au clavier n'est pas toujours évident à mon goût. Enfin, bon, je veux dire dans ce genre de.
Ah oui, donc dans ce cas-là, il y a en plus de la souris traditionnelle du point and click, on va jouer au clavier alors du coup.
Je crois qu'on tape, enfin.
Il faut une petite jauge qui se remplit. Il faut appuyer dès qu'elle est pleine, donc au bon moment, un bon timing.
La souris ou au clavier
avec le bras. Je crois que ça marchait avec la souris.
Et on pouvait pas. Je me trompe peut-être avec le.
Peut-être les deux.
Je me demande si on pouvait pas avec la barre d'espace. Plus trop. J'ai pas recommencé dans ce mode de jeu, donc j'ai plus le détail en tête. Mais globalement, vous aurez aussi également quelques petites actions dont les autres modes étaient dépourvus, comme la course poursuite dans Monte Carlo, dont on a entendu la musique juste avant. Donc voilà. Donc en tout cas, la possibilité, cette possibilité de refaire le jeu d'une manière différente augmente la replay value en sachant que qu'en plus déjà. À l'origine, les certaines énigmes ne se résolvent pas forcément de la même façon en fonction de la partie. Genre, par exemple, certains objets se découvrent de différentes façons et ou à différents endroits, quoi. En fonction de la partie que vous commencez. Donc, lorsque j'ai fait le jeu pour la première fois, après avoir fait The Last Crusade, je jouais, en fait, petite anecdote perso, je jouais le soir, en général, à Indiana Jones, and the Fate of Atlantis, et en même temps qu'un pote qui jouait chez lui également, et le lendemain, on partageait des fois dans les endroits où on était coincés, on se disait, ah, toi, t'es bloqué là, comment tu fais? On avançait un peu en parallèle, du coup, on se débloquait mutuellement. Et des fois, lui, il me proposait une solution, il me disait, ah, moi, j'ai fait comme ça pour résoudre le truc, et quand moi je faisais, ça marchait pas parce que l'objet que je devais trouver n'était pas l'endroit où lui l'avait eu dans sa partie.
Ouais, pareil pour le dialogue de Platon. Moi, j'ai essayé plusieurs façons. J'ai pas réussi parce que le livre n'était pas à ces endroits-là.
C'est ça.
Donc, j'ai regardé une solution sur le net. Il m'a appris une troisième façon. Il m'a dit c'est une de ces trois forcément. Je l'ai faite et j'ai toujours pas eu. Donc il y a une quatrième.
Il y a quatre façons d'avoir le livre de Platon.
J'ai toujours pas trouvé la quatrième.
Non, c'est vraiment assez tendu. Il y a vraiment et du coup ça donne. Bah même si vous connaissez déjà le jeu, bah au début, bon après c'est sûr qu'une fois l'avoir fait 3-4 fois, vous connaissez tout par cœur.
Mais ça donne
du value parce que vous dites ah ça y est j'ai trouvé le truc à faire. Et là vous avez Indiana Jones qui ouvre son coffre. Le coffre est vide. Bon bah tant pis, on va aller chercher ailleurs quoi.
Tous les objets qui servent à rien.
Est-ce que t'as cherché d'ailleurs dans le coffre qui est dans l'appartement d'Indiana Jones, dans le bureau d'Indiana Jones? Il y a un coffre à l'étage, tu peux monter à l'échelle et il y a un coffre que tu peux ouvrir.
Tout au fond là où c'est tout bleu, sombre, celui-là je l'ai ouvert.
Ah bon, bah enfin bon, bah c'est un des endroits apparemment où tu peux récupérer ce genre d'objet. Donc
on vous le dira si Ellie arrive à trouver son livre de Platon, on vous tiendra au courant la suite du prochain épisode.
Tout à fait. Tu cherches un livre cochon, c'est tout.
Ah c'est possible. En fait, tu cherches pas un livre.
Non mais je crois qu'en plus il est tout en haut, il y a un trou, on le voit, mais on peut pas y accéder.
Il faut utiliser. Il y a un objet à utiliser. Tu peux utiliser la corde pour monter ou je sais plus quoi.
Ah, je sais pas réussi.
Solution en direct.
Voilà. Solution direct. Bon, en vrai, c'est une des différentes façons. Il y a vraiment beaucoup de manières de résoudre certaines énigmes. Pour en revenir à ton, donc le jeu propose même un compteur de score, le IQ score, ou alors quotient intellectuel, hein, en QI en français, et qui évoluera en fonction des énigmes résolues, des objets trouvés et autres, et qui permettra encore une fois de se comparer avec avec vos potes. Bon, évidemment, il n'y a pas encore de mode en ligne, et encore je me demande si dans la réédition qui ils ont sorti
le jeu Xbox.
Autant que je sache, en fait, les dernières éditions du jeu, c'était, il est vendu sur Steam.
Ouais.
Alors, je sais pas si la version a été modifiée ou pas, ou s'ils ont apporté des améliorations ou pas. Par contre, je sais qu'ils l'ont aussi mis en bonus, d'après ce que j'ai vu, dans la version Wii, du dernier jeu Indiana Jones sur Wii qui est sorti, The King, je sais plus quoi, un jeu du genre, je sais plus exactement, mais je sais qu'il me semble qu'ils l'ont inclus en bonus avec les voix digitalisées, enfin avec les voix enregistrées et tout ça en bonus dans le jeu, quoi.
Alors, petite question, toi, le QI et le quotient intellectuel, t'avais une bonne note
dans le jeu? Ouais, mais bon, après je suis pas remonté jusqu'à la fin du
comment
jeu,
comment ça
donc,
dans le jeu, faut nous expliquer là. QI dans le jeu?
Oui, il avait dit tout à l'heure que
Panelli.
Il y a un score avec du QI.
Ah, d'accord.
Voilà,
c'est
un bon score.
Mais en fait, je veux dire, enfin, le score se calcule, non, mais.
En fonction de quoi?
Oui, c'est ça que je veux savoir.
C'est ce que je viens de dire.
Ah, d'accord.
Tu évolueras en fonction des énigmes résolues et des objets trouvés.
Oui, mais les énigmes.
Attends,
on revient
en arrière.
Non, mais dire, les énigmes, t'es forcé de les résoudre pour avancer dans le jeu.
Oui, mais
donc, comment tu peux avoir un QI différent du voisin? C'est ça que je...
En fonction des énigmes que tu résous différemment, t'as des fois différentes façons de résoudre.
D'accord. Donc, il y a peut-être des voix qui vont être plus difficiles à résoudre que d'autres.
Peut-être que le jeu, alors ça, j'ai pas regardé si effectivement, peut-être que le jeu estime aussi le temps que t'as mis à résoudre une énigme, ou peut-être le nombre d'essais que t'as fait infructueux avant de résoudre. Un peu comme dans Zakewiki
oui,
sur la Wii,
avec
où,
le temps et
si tu fais des actions, si tu fais trop d'actions pour ça, bah ça te fait baisser ton score et c'est peut-être quelque chose du style. Maintenant
et Martin
va détailler le truc.
Avec son 200 de QI, il devrait réussir facilement.
Ça remet encore ce 200 de QI. Enfin, qui pourra. J'en en parlerai pas maintenant.
Voilà. Donc pour conclure, je dirais que bah dans ma maigre expérience du point and click, parce que bah c'est pas forcément mon genre de jeu préféré, mais j'avoue que l'univers d'Indiana Jones et la réalisation globale du jeu et surtout le fait que bon d'après moi hein, toujours je trouve que dans ce jeu-là il y a quand même pas trop d'énigmes on va dire tirées par les cheveux à l'extrême. Je dis pas que c'est pas compliqué, hein, mais pour moi, je trouve qu'il y a une certaine logique quand même la plupart du temps dans la résolution des
jeux. Il y en a moins que dans peut-être d'autres jeux Lucas que t'as vu.
Ouais, des trucs complètement aberrants, je veux dire, où tu fais des actions qui auxquelles voilà n'importe quel être humain normal ne penserait même pas, quoi. Enfin, je veux dire, comme dit là le coup que j'expliquais tout à l'heure d'utiliser une pointe de flèche pour dévisser une vis, voilà, c'est quelque chose qui pourrait devenir naturellement à l'idée. Tu as l'objet, tu sais que tu vas pouvoir faire ça. T'en as d'autres qui sont peut-être un peu moins évidentes, mais dans l'ensemble, c'est quand même, on retrouve toute l'ambiance d'Indiana Jones, même des petits côtés que je retrouve moi dans le scénario, qui sont peut-être un peu inspirés du premier film Indiana Jones et Temple Maudit ou des choses comme ça.
L'Arche perdue,
où on retrouve en fait une ancienne connaissance, voilà ça. Plein de côtés sympathiques, le choix des modes, plein de choses vraiment agréables dans ce jeu qui, franchement, si je peux que vous conseiller d'y jouer, quoi.
Eh ben, c'est très bien, ça, pour conclure ton versus mode, hein. On s'écoute Research Lab Somewhere in Germany.
N55. Un maximum de musique.
N57 Radio. It's
Génération Prestart. Génération Prestart.
Donc voilà, toujours Try Again sur Indiana Jones. Je prends quelques secondes juste pour préciser par rapport au Stunfest dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a une adresse internet si vous êtes intéressé. Stunfest.3hitcombo.fr. On l'écrira sur le chat.
Sur le forum, les gens qui veulent s'y rendre, avoir plus d'informations, vu que je suis en relation avec certains des organisateurs qui sont très accessibles, très disponibles, et on peut même envoyer un petit mail ou quelque chose, n'importe quoi, ils répondent tout de suite, c'est super sympa.
Et puis évidemment, l'adresse à ne pas oublier, www.forum.fr.
Non, pas
comme. Et nos Facebook.
Comme ça, ben, je rappelle juste que sur le forum, on a un podcast exclusif pour ceux qui auraient par malheur raté un ancien numéro, qui veulent en réécouter, qui veulent entendre
et ce soir, vous aurez Castle of Illusion starring Mickey Mouse.
Un jeu qui tient vraiment à cœur.
Ouais, tout à fait.
Très bon. Voilà.
Martin, tu nous parles de quoi pour finir?
Eh ben, moi, je vais commencer comme presque toutes les semaines parce qu'on a reçu des questions d'auditeurs et j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, pas toutes parce qu'on peut pas toujours toutes les sélectionner ou elles sont pas forcément toutes les plus pertinentes par rapport à ce qu'on a déjà dit avant. Et donc, je vais commencer par quelqu'un qui est beaucoup cité en ce moment dans notre émission SF Adventure. Hein.
Ouais, et puis, comme pour proposer ce que tu dis, c'est surtout aussi des fois, nous, en tant que rédacteurs de ces rubriques, on se sert des fois des questions des qu'on trouve vraiment par contre pertinentes pour développer certains axes de notre rubrique aussi, donc ça nous aide des fois à partir sur le sujet et à aborder certains points qu'on aurait peut-être pas pensé dans nos rubriques, donc c'est bien d'avoir ce côté question.
Moi je trouve ça offre une vraie interaction, et pour revenir à notre auditeur du jour SF Hunter, c'est vrai que je m'étais beaucoup basé sur ces questions pour Secret of Mana parce que sans revenir dans le sujet, c'est lui qui m'avait un peu appris le jeu, mais je trouvais ça encore plus pertinent justement de reprendre ça. Donc il nous demande une première question: le jeu a-t-il été bien reçu par les fans de la série cinématographique ou a-t-il fait un four? Qui souhaite y répondre?
Moi je vais bien y répondre. Donc alors, pour répondre clairement, je sais pas s'il a été bien reçu par les fans de la série cinématographique, mais en tout cas il a en tout cas bien été reçu par les fans de jeux vidéo parce que le jeu est quand même assez vite devenu million seller. Donc quand même quelques millions d'exemplaires, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais
pour ce genre-là en plus,
c'est balèze, hein.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Anecdote personnelle, justement, quand j'ai vu qu'on préparait le jeu et tout, et comme je vais souvent dans les magasins d'occasion pour les vieux jeux vidéo, j'ai vu le jeu, je me suis dit, oh tiens, je vais l'acheter. Ah mince, c'est sur quoi? Je prends quand même. On va pouvoir avoir la notice.
Voilà, vous le découvrez, Ellie le collectionneur.
Voilà, c'est aucun jeu que je possède.
Que tu ne pourras pas jouer, mais tu possèdes.
Mais tu possèdes, c'est bien.
Oh, c'est bien. Si tu avais fini avec la question du monsieur ou pas?
Bah écoute, oui, tout ça pour dire que bon, je pense qu'on peut dire oui, il a été bien reçu dans la mesure où les ventes sont ressentes, et je pense que bon, mis à part le fait que je vous dis que c'est un bon jeu, il s'est bien vendu et il est réclamé depuis. Ça fait des années que les gens réclament que le jeu passe en abonnement, ce qu'on appelle en abonnement. C'est-à-dire qu'un jeu, à bout de certain nombre d'années, on pourrait se dire que les développeurs peuvent estimer qu'ils l'ont rentabilisé et peuvent en faire en quelque sorte cadeau aux fans, quoi.
D'accord.
Mais les artistes n'ont pas trop cet avis.
Moi, j'ai encore une petite précision à porter par rapport à cette question-là, c'est que je me suis un peu renseigné aussi sur le jeu, comme c'est vrai qu'on en parlerait aujourd'hui. Et il y a pas mal de fans, il y a une grosse communauté qui, en fait, était déçue qu'au final, le quatrième film Indiana Jones, donc le Royaume du Crâne de Cristal,
ne reprenne pas
l'histoire de l'Atlantis. En fait, ils auraient préféré voir l'histoire de l'Atlantis adaptée en film, tellement le jeu était bien et que l'histoire était bien,
honnêtement,
que d'avoir pris celui-ci.
Si je peux me permettre quelque chose, moi j'aurais préféré voir n'importe quoi d'autre que Indiana Jones 4, hein, personnellement.
Voilà.
Oh,
après chacun ses goûts. Hein. Moi je sais que
on est d'accord. Mais je pense que j'ai une bonne grande bande de fans. D'ailleurs, si vous voulez, à ce sujet, il y a un épisode de South Park qui parle de Indiana Jones 4 où, en gros, pour les personnages de South Park, Indiana Jones s'est carrément fait violer par George Lucas et Steven Spielberg, tellement c'est pour eux une ignominie ce film, aberration.
Mais bon, voilà, donc, comme quoi, effectivement, il n'y a pas fait l'unanimité et que, mine de rien, il aurait peut-être pu avoir ce jeu quelque chose à voir avec un autre film.
Mais ça viendra peut-être un jour.
Qui sait, tout est encore réalisable.
Tout est possible, c'est le jeu de la vie.
Tout à fait, on a bien vu des nouveaux Rambo, des nouveaux Rocky, et là pourquoi pas encore un 5e Indiana Jones.
Oh, mais c'est possible, Indiana Jones à la maison de retraite, Indiana Jones,
et
le mystère du dentier perdu.
Il y a la relève.
Alors, dernière question d'auditeur, toujours de SF Hunter. Les Indiana sont-ils police?
Ça dépend si on les frotte longtemps.
Oh, belle réponse. Voilà, donc là j'en ai fini avec les questions d'auditeurs et donc moi j'ai un peu commencé à regarder ce qu'il sait comme autre jeu Indiana Jones. J'en connaissais certains, j'avais pu en essayer, des bons comme des mauvais. Et il y a un constat au final qui est apparu après que j'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait quelques recherches sur des jeux. Alors déjà il existe un action game de The Fate of Atlantis qui se joue en 3D numérique, une sorte de beat'em up. C'est une merde. Il,
ouais.
Il existe aussi Last Crusade sur Mega Drive. C'est une merde. Et en ouais. parallèle, il existe un jeu Indiana Jones Super NES qui lui reprend la trame principale des trois premiers films et qui est très fidèle et qui est un très bon jeu avec des choses comme ça. Et après, ils ont fait plutôt des jeux en 3D isométrique, un peu à la Tomb Raider. Indiana Jones et Confronté à d'autres énigmes comme dans La Machine Infernale qu'on a eu sur PC en Europe. Voilà. Donc il y a eu plein de jeux Indiana Jones. Mais quand j'ai regardé ces jeux-là, le fait, il y avait un point commun, aucun de ces jeux n'est sorti au Japon. C'est-à-dire que
ma mère.
Les jeux ont été faits par les Américains. Nous les avions en Europe, mais les Japonais ne les ont jamais eus. Pourtant, il y a un jeu, c'est quand même une grosse licence. Alors du coup, je me suis demandé, mais au final, c'est pas la première fois comme ça que les Japonais se sont fait léser. D'habitude, c'est nous qui râlons parce qu'on n'a pas les jeux des Japonais.
Ouais.
Et là, pour une fois, c'est l'inverse. Alors, j'ai repensé à d'autres grandes licences comme Killer Instinct qu'ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu Conkers. Et ils ont eu, pas encore eu plein d'autres jeux exclusifs à l'Europe. Alors après là par contre j'ai cité un peu quelques jeux un peu merdiques genre Pepito le jeu, Carlos le jeu,
Super Dami,
au final est-ce que ils sont pas un peu un pied de nez. Je me suis dit que non, le fait est que le problème pour ces jeux là c'est que c'est un peu de traduction. C'est-à-dire que ils auraient pas pu, je pense, pour moi après c'est mon point de vue, hein, je peux me tromper, oui. J'aimerais savoir votre avis sur le sujet, mm-hmm. C'est qu'en fait ça aurait été trop compliqué de traduire le jeu et d'adapter le système à la langue japonaise.
Oui, parce que peut-être que la langue japonaise ne permet pas ce mode. Bah, je pense qu'il y a quand même des point and click au Japon.
Ah, je pense aussi, mais après, ils ont pas forcément le même moteur, tu vois. Je suis pas allé chercher si effectivement tous les jeux Lucas qu'on a cités au début étaient sortis ou pas au Japon, mais sans prendre trop de risques, je pense qu'il y en a aucun qui a dû sortir là-bas.
Ouais, après, la question, et c'est ça, ça serait peut-être de vérifier s'ils ont eu peut-être des petites recherches à faire autour de ça, s'ils ont eu quand même le courage d'en sortir un et qu'effectivement c'est peut-être la suite d'un flop qui fait qu'ils n'ont pas sorti le reste de leur jeu parce que le genre ne marche pas aussi bien.
Après ça m'a fait penser à autre chose, c'est qu'en fait, selon les genres, il y a des fois des marchés qui sont plus ou moins à même pour que ça marche. Pour reprendre, on a parlé déjà des RPG. Les Japonais sont très friands de RPG. Pourtant, nous, en Europe, on s'est battu, on en a bavé pour en avoir. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, comme j'ai déjà expliqué, nous, en Europe, on est vraiment les derniers passés par rapport aux RPG. Donc, la première phase, c'est le Japon, après les États-Unis. Une fois que les États-Unis ont la traduction, on a une traduction européenne. Donc, au final, est-ce que pour ces jeux-là qui, en fait, sont développés américains ou en Europe, le chemin inverse est encore plus compliqué pour eux? Et que du coup, ils sont lésés, quoi. Je veux dire, est-ce que la traduction smart, eux aussi, ils perdraient l'intérêt, tu vois?
Ouais, cela dit, je veux dire, les Japonais, ils sont pas en manque de jeux vidéo.
Ah non, je dis pas qu'ils sont en manque, hein.
Mais c'est vrai que c'est curieux, on voit aussi le sort réservé par les Japonais à tout ce qui est produit américain, hein. Il y a qu'à voir à l'heure actuelle, pour si on prend un point plus récent, le sort de la Xbox au Japon. On peut carrément qualifier ça de four monumental. Microsoft a mis des millions dans des campagnes commerciales, essayer de refourguer leur Xbox au Japon.
Ça dépend. Pour les shoot'em up, maintenant c'est la console des shoot'em up.
Ouais, mais après, c'est devenu une console de hardcore gamer au Japon. Ils ont des super jeux.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
C'est un peu bizarre.
Mais je veux dire, du coup, c'est très marginal. Et on peut dire que pour Microsoft, ils sont contents. Hein, ils en vendent 2000 quand Sony en vend 30 000 dans le mois ou par la semaine. Je pense qu'eux, ils préféraient quand même se positionner sur un marché un peu plus large au Japon, en tout cas quoi. Quand on investit en général, on attend un retour sur investissement. Donc, je pense qu'il y a aussi une barrière culturelle au Japon qui fait qu'ils sont très fermés vis-à-vis de ce qui vient de.
Cette barrière culturelle, nous à la base, on l'avait quand on n'a pas reçu des RPG ou des ARPG du Japon.
C'était une barrière culturelle que eux s'étaient mis en se disant oh non ça c'est
typiquement
japonais, ça marchera pas en Europe. Et alors maintenant ils se rendent compte que concrètement il y a autant de Français fans de RPG que de Japonais quoi.
Et ils vont encore plus loin que ça, je veux dire au niveau de la traduction, des fois il y a eu des jeux qui ont été tronqués ou les traductions sont plus ou moins mauvaises par rapport au nombre de caractères qu'ils pouvaient voir à l'écran. Oui. Donc, je me dis que peut-être dans le sens inverse ça existe aussi et que parfois on se dit peut-être qu'en fait faut être heureux que le jeu soit pas sorti dans une langue ou dans une autre officiellement, mais être heureux qu'on ait une fan trad qui soit peut-être de meilleure facture qu'une traduction officielle qui, elle, aurait été vraiment taillée au couteau par rapport à ces contraintes-là, oui, comme on l'a quand on est parlé sur DBZ, il y a un en début de saison, tu vois.
Oui, ou sur Final Fantasy VII, on avait déjà abordé le sujet.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve pas que dans les jeux vidéo, mais dans les films, dans les séries télé, dans les animés. Je veux dire, il y a des animés, des fois, les séries françaises, ben, t'as plutôt intérêt à prendre un fansub, c'est malheureusement illégal, plutôt qu'un DVD officiel parce que les traductions sont mauvaises ou qu'il y a un contexte, il y a quelque chose de textuel qui est pas bien marqué, quoi.
Ouais, non, tout à fait d'accord. Non, c'est vrai que de ce point de vue-là, je partage entièrement ton avis et je pense que oui, c'est bon. Ça peut être dommage quand même parce que bon, tu dis le fansub ou le fantrad. Dans le cas des jeux vidéo, oui, mais en général, le fan trad de jeux vidéo, ça prend pas deux minutes et ça se fait pas en deux secondes.
Ah non, non,
ça peut être des années plus tard, quoi.
C'est pas ce que je dis, mais moi, je voudrais d'avoir plus loin, c'est un fan trad qui, au final, eh ben, je me dis, ils ont peut-être été meilleurs que des traductions officielles, parce qu'ils ont même retraduit des jeux qui étaient déjà traduits.
Sinon, la solution, c'est d'apprendre le japonais.
Oui, tout à fait. C'est un très beau débat avec une très belle conclusion pour finir cette émission. Il nous reste quelques secondes pour vous dire au revoir, pour vous dire que la semaine prochaine, c'est Ellie qui s'y colle avec Street Fighter 2. Sur notre forum, il y a donc Castle of Illusion, donc n'hésitez pas à y aller. Les Facebook, Facebook de l'émission, et puis bisous à tout le monde. On se quitte avec ta-ta-da-da.
Après ça.
À peu près ça, voilà.
Le thème principal.
Le thème principal, l'opening thème. Allez, bisous tout le monde, au revoir.
Salut,
à la semaine prochaine, ciao, ciao.
Ah. M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Game over.